Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Raph, le R de Girafe. Je me suis invité aujourd'hui dans l'émission Sport Addict de David, puisque nous allons passer quelques minutes avec un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau que je connais bien, qui s'est spécialisé dans le golf. Donc on va passer quelques minutes avec Sacha Ruiz. Salut Sacha.
Salut tout le monde. Donc je me présente.
Hein. Ouais, présente-toi.
Donc pour faire rapidement, je m'appelle Sacha Ruiz. J'ai 18 ans, je joue au golf depuis...
Quelques années.
Ouais, bientôt, je pense 15-16 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, t'as commencé très très jeune.
Ouais, apparemment. Ma mère disait que je prenais les spatules en bois quand j'étais petit dans la cuisine pour faire des swings avec. Donc ouais, je crois que depuis tout petit, je baigne un peu dedans. Toute ma famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, joue. Donc j'ai un peu baigné dedans. Et puis j'y suis resté.
Ouais, t'as commencé à 5 ans, donc c'est ça, au golf.
Ouais, je pense que mes premiers cours d'école de golf, ça devait être à 5-6 ans, 5 ans. Mais quand j'avais 2-3 ans, je pense que mon père, il m'emmenait... Enfin, j'allais taper des balles avec mon père au practice, peut-être une fois par mois, et... C'était, je pense que c'était là-bas mes premières balles. Quoi.
Mais... Ouais, parce que ce qu'il faut préciser quand même, c'est que tu fais partie d'une famille de golfeurs, mais de bons golfeurs. T'as un père qui performe toujours d'ailleurs. Et
il commence à avoir un peu de mal contre moi. Mais
Ah, c'est bien, c'est l'élève qui dépasse le maître.
Mais ouais, il s'en sort, il joue pas mal.
Il a une carrière entre guillemets de sportif de haut niveau, parce que à son niveau régional.
Puis c'était une époque différente, etc. Donc c'était. C'est comparable, sans être comparable, mais mon père joue plutôt bien en tout cas.
Ouais, en plus il va m'en vouloir, parce que si je dis régional alors qu'il a quand même joué en national, ça va pas du tout lui plaire.
Pas niveau national.
Donc effectivement, tu baignais là-dedans et tu es rentré dans le golf. Donc l'idée de notre interview, c'est un peu de découvrir comment tu as cheminé jusqu'à ton parcours actuel, puisqu'aujourd'hui tu es aux États-Unis et tu as rejoint une université américaine. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, c'est le chemin un peu vraiment sportif. C'est comment est-ce qu'on se passionne, quelle routine on doit mettre en place pour arriver au niveau auquel tu es arrivé. Et puis après, donc on va explorer ton parcours américain et comment tu as réussi à intégrer cette université américaine cette année. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du golf en tant que sport, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce sport. C'est quoi la routine? Comment toi, tu es rentré dans cette dynamique? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as progressé dans cette activité?
Le golf, déjà... Je vais pas mentir, c'est pas un sport comme les autres sur la dépense physique. Je veux dire, certes, à haut niveau, tout le monde est en super forme et fait du sport tous les jours et travaille beaucoup là-dessus. Mais le golfeur moyen, entre guillemets, il a vraiment pas besoin de ça, et ce qui est différent avec la plupart des autres sports.
Ouais, puis c'est un sport qu'on peut pratiquer effectivement de 5 ans jusqu'à 90 ans.
Jusqu'à que tu puisses marcher, donc... Donc, c'est sûr, c'est différent. Mais j'ai commencé le golf en cours avec l'école de golf au golf du Havre, à Octeville.
Ouais, t'as commencé. Donc, le pro à l'époque, c'était David DeWitt, c'est ça?
Ouais, il y en avait deux, du coup, David et Andrés Bourdet, qui est toujours mon pro actuellement. Ouais. Et donc, ça commençait juste peut-être une fois par semaine, peut-être les mercredis matin ou après, je sais plus.
Ouais, donc assez classique finalement. C'était plus un loisir, un divertissement.
Puis surtout, moi, c'est à côté, je faisais du foot. Bon, apparemment, j'étais pas très bon, mais moi, j'adorais ça. Et je me souviens qu'il y avait même un moment où mes parents étaient inquiets parce que je préférais le foot au golf.
Et ils se sont dit, il va plutôt s'orienter.
Donc voilà. Puis après, je commençais à me faire quelques copains là-bas. Puis après, avec mon cousin qui a à peu près mon âge. Joue aussi, et donc on a fait ça m'a un peu poussé à continuer pour rester avec mon groupe de copains. Et
ouais, parce que c'est un sport individuel, c'est pour ça que c'est un vrai sujet, parce qu'on va pouvoir aussi un peu l'évoquer, mais tu parlais du foot, il y a le collectif, il y a là le golf, c'est vraiment un sport qu'on pratique seul face à soi-même. C'est compliqué. Je connais un peu le sport, je vois un peu la complexité de ce sport-là, et il y a un moment donné où psychologiquement il faut quand même s'accrocher, parce que c'est quand même dur. Et ouais, ça t'a plu, cet aspect psychologique du... Tu sens qu'il y a eu une bascule à un moment donné?
Ouais, moi j'aime bien le fait que tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quand tu joues bien et quand tu joues mal. Je veux dire, quand tu joues bien, tu trouves que le sentiment de fierté est démultiplié par 1000. Ouais. Alors que, je sais pas, je donne un exemple, mais un footballeur qui marque un penalty, on dit toujours que c'est pas vraiment un vrai but. Mmh. On lui a soit c'est pas lui qui a provoqué le penalty, lui il a juste tiré, c'est pas la partie la plus compliquée. Alors qu'au golf, tu fais un bon trou, un bon score, une bonne partie, c'est que grâce à ton travail et à
toi. Comment, tu ne peux en voir au sens positif comme négatif qu'à toi-même.
Et dans le mauvais sens, si tes joueurs de foot, ton équipe perd, tu peux avoir fait le meilleur match de ta vie si tes partenaires de jeu ils sont pas bons. Vous avez perdu le match, alors que là, si tu joues mal, c'est que toi. Donc, c'est ça que c'est.
Ouais, donc t'aimes bien ce côté défi un peu individuel.
Ouais. En fait, je pense que ça m'énerverait un peu que mon sort soit dans la main de d'autres personnes.
Ah, donc ça, on va en parler aussi, parce que ça veut dire aussi que c'est quand même un sport d'équipe. Aussi un peu le golf, tu peux jouer en équipe.
Ouais, il y a des formes à l'équipe. Ouais.
Mais toi, ce que tu préfères, finalement, c'est le combat avec toi et dans cette préparation. Donc mentalement, ça veut dire aussi que c'est un sport qui est très dur. Donc quand on est jeune, est-ce que tu as des souvenirs avant d'en arriver à ton niveau? Parce que c'est un long parcours. Tu as eu des moments où tu étais. Parce que ça doit générer des frustrations énormes.
Ah oui, je pense que tout. Quasiment
encore
tous
maintenant.
Ceux qui... Oui, ça va, je pense que ça va jamais s'arrêter. Mais je pense que tout golfeur à peu près à haut niveau, même juste à un niveau correct, qui jouait tôt et qui faisait des compétitions jeunes, je pense qu'on a tous pleuré sur le parcours quand on jouait mal, quand on avait 10-12 ans. Donc moi, c'est clair, ça m'est arrivé. J'ai eu quelques tournois ou quelques trous, quelques journées qui ont été particulièrement difficiles à gérer parce que...
Ouais, ça, on va en parler dans ton cursus, parce que t'as eu un cursus. Au début, tu étais en régional, et après, t'as quand même eu des tournois. C'est quoi ton palmarès d'ailleurs? Enfin, comment t'as fait les championnats de normes? Enfin, j'imagine qu'on commence. J'imagine, je le sais en l'occurrence, mais régional, départemental.
Ouais, en gros, pour commencer, on commence. En soi, les premières compétitions, c'est les compétitions de club, donc c'est ni département. Enfin, c'est vraiment que dans ton club où il y a quasiment. Que des membres du golf du Havre, même si les autres membres sont acceptés d'autres clubs, mais la plupart du temps, c'est uniquement des locaux. Et moi, j'ai mes premières compétitions, je pense qu'on doit avoir 8-9 ans, enfin moi, personnellement en tout cas. Et puis après, quand tu commences à avoir un index, l'index, c'est ton niveau de jeu, un peu comme au tennis, le handicap. Donc quand tu commences à avoir un index à peu près correct, tu peux rentrer dans des compétitions qu'on appelle les grands prix. Et maintenant, dans les Grands Prix, il y a des catégories d'âge. Donc, ça commence, je crois, à partir de 10 ans et en dessous.
C'était déjà le cas à l'époque?
Parce qu'on
parlait à l'époque, t'es encore très jeune.
Même quand j'avais 10-11 ans, c'était déjà pas autant développé que maintenant, mais t'en avais déjà pas mal, que ça se faisait pas mal. Donc, c'est
les Grands Prix, mais c'est individuel ou...
C'est que individuel, et c'est comme ça un peu que j'ai commencé à faire mes premières compétitions de... Je vais pas dire de haut niveau, parce que franchement, on était peut-être... Enfin, je sais pas, mais j'ai une connerie, mais on est 100 dans le tournoi, il y en a peut-être 5-6 qui sont vraiment là pour...
Pour gagner.
Pour gagner, et surtout pour être dans la performance pure, quoi, entre guillemets. Et les autres, ils sont là parce qu'ils doivent être là, et ça leur fait... rire de faire ça, mais et puis moi au début j'étais dans ce cas-là, parce que moi je voulais juste faire comme mes copains qui étaient plus âgés qui faisaient ça, et donc je voulais les rejoindre, quoi. En plus c'est sympa parce que c'est la plupart du temps c'est toujours dans les golfs extérieurs que le tien, donc c'est sympa aussi de découvrir d'autres golfs.
Tu découvres d'autres choses.
Donc,
il y avait aussi, parce que j'ai les souvenirs que vous faisiez aussi des déplacements avec la ligue, j'imagine que la ligue aussi a aidé, t'as été détecté à un moment donné par la ligue.
Ouais, c'est ça, et à partir je crois qu'il commençait les détections. Je crois que c'est encore même plus jeune, mais moi, je crois que mes premiers stages de ligue, c'était quand j'avais 11-12 ans, donc un ou deux ans après que j'ai commencé les Grands Prix.
Ça me paraît plus jeune, parce que j'ai l'impression que maintenant, ils arrivent à détecter de plus en plus jeune.
En plus, maintenant, ils commencent au niveau départemental, et du niveau départemental, je pense quasiment 8 ans, je pense qu'ils doivent commencer à détecter. Et après, au niveau régional, pour les meilleurs. Et donc ça, c'est vrai que c'était vachement sympa, ce truc de retrouver plein de jeunes, certains que tu connaissais, d'autres pas du tout, mais vous avez tous la même passion, entre guillemets, parce que là, c'est déjà un peu plus de haut niveau. Mmh. Mais il y avait toujours ce truc de rire, passer du temps ensemble, et c'était pas une peine à vivre, quoi. C'était des stages où on rigolait avec eux. Les entraîneurs, ils sont toujours sympas avec les jeunes, donc tu rigoles avec eux.
Oui, parce que c'est souvent un sport qui a une image un peu snob, un peu vieux, alors que ça s'est vraiment démocratisé ces dernières années. Là, on sent qu'il y a quand même un vrai engouement pour les jeunes autour de cette... D'ailleurs, l'école de golf, je crois que quand, de mémoire, vous étiez une centaine. Enfin, il y a eu un vrai développement de l'école de golf.
Ça s'est vraiment développé, donc ça c'est cool. Puis en plus, du coup, ça augmente les probabilités d'avoir un bon joueur, un très bon joueur... que ce soit au Havre ou dans un autre golf, et qui puisse être une star française plus tard, qui brillera à l'international sur les circuits mondiaux. Donc,
on va en parler un peu après, parce que ça, c'est intéressant. Le sport de haut niveau, c'est dur, c'est âpre, les places sont chères. Mais ça va être intéressant de l'évoquer sur le parcours américain. Et d'ailleurs, tu as décidé de partir là-bas. Pour terminer, donc, aujourd'hui, tu es combien de handicap?
Moi personnellement, ça me varie beaucoup parce que je fais beaucoup de compétitions par an, mais là actuellement je suis moins 5,8.
Et ça veut dire on va parler de classement français, tu fais partie des comment tu classes
Je crois en handicap là je dois être 12e messieurs, un truc comme ça, ouais. Et 2e de ceux de mon année, donc les 2006, mais encore ça varie énormément. Peut-être dans 3 compétitions, je passerai, si je joue juste moyennement, je passerai moins 1,3, et là je passerai, 35e messieurs.
Ah oui, donc il y a une variation.
C'est assez...
C'est assez fluctuant.
Surtout quand tu joues beaucoup, et que beaucoup à haut niveau, en fonction des parcours. Parce que, un score par exemple de moins 1 sur un parcours entre guillemets facile, n'a pas du tout la même valeur pour ton handicap qu'un score de moins 1 sur un des parcours les plus durs de France ou du monde. Donc c'est pour ça que ça varie beaucoup. Et donc moi je fais 20 compétitions par an à peu près.
De Grand Prix là, ce que tu disais tout à
l'heure. Ouais, c'est ça, prix. Ouais. Et en moyenne c'est 3 tours, donc ça me fait 60 tours. Et un cycle d'handicap c'est tes 20 dernières compètes, donc comme ça je peux... Oui, ton cycle se renouvelle 3 fois totalement, donc ça varie énormément au cours d'une année, quoi.
Ok, et donc là, on va partir sur la partie américaine maintenant. Donc, une passion, on l'a compris, des copains, t'as accroché, le sport est devenu une passion complète. Tu as eu ton bac l'année dernière. Comment est-ce qu'à un moment donné, t'as décidé, au-delà de la passion, mais encore faut-il être pris, ça se passe comment pour. T'avais le choix, c'était quoi? Tu t'es dit, est-ce que je garde ça en passion à côté et puis je m'oriente vers autre chose? Ou dans ta tête, c'était très clair de te dire, il faut que je suive un cursus comme celui-là?
Déjà, pour commencer, je vais dire que j'ai commencé à vraiment vouloir mettre au golf de haut niveau, entre guillemets. Je pense que quand j'ai commencé à faire les stages de ligue et mes premiers championnats de France, je me souviens, mais mon premier championnat de France, moi je l'avais fait à 12 ans, et c'était. Ça me paraissait énorme, tu vois, que des jeunes du tout le pays viennent au même endroit où il n'y a que les meilleurs pour essayer de vraiment être le champion. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui faisaient ça beaucoup plus jeunes que moi, et j'étais loin d'être le plus mature là-dessus. Mais de voir ça, j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment envie de faire encore plus de compétitions à l'échelle nationale, etc.
Oui, donc finalement, c'est le côté ultra sportif et côté compétiteur, t'es un vrai compétiteur. De toute façon, pour faire ça, je pense qu'il faut être un vrai compétiteur.
Ouais, moi j'adore jouer tout le temps, je déteste perdre, donc que ce soit au golf ou dans autre chose. Et donc après, je pense, après 2 ans où je faisais un peu pas trop de compétition, parce que mes parents ils pouvaient pas trop m'emmener à cette époque-là dans la France. Et 2-3 ans après, la Ligue, ils ont mis un programme où ils emmenaient les jeunes les meilleurs jeunes de la Ligue faire les plus grosses compétitions. Et c'est là où j'ai en découvert encore plus au quotidien la compétition de haut niveau. Et c'est là qu'on a un peu découvert, je pense, tous à cet âge-là.
L'envie de.
Le projet américain, l'université américaine, parce que tu avais je sais pas comment on appelle ça, des discours, des cliniques de personnes du staff de la Fédération française de golf qui expliquaient ce que c'était. Et
là, tu avais quoi? Tu avais 14-15 ans,
c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et honnêtement, par contre, je me souviens. Pas du tout s'il y a eu un moment clé qui m'a fait dire ok, oui, c'est sûr, je veux faire ça. Ça me paraît, enfin, c'est plus comme une évidence. Enfin,
genre,
c'était
même pas un choix,
ouais, ouais, c'est ça. C'était, enfin, je joue bien, je kiffe faire ça. Les États-Unis, c'est cool.
Ouais.
Les études, j'aime bien ça, j'étais bon, mais c'est, je préfère quand même faire du golf. Donc, mais en même temps, j'ai pas envie de faire que du golf. Donc, ça
ouais, parce que c'est compliqué.
On
disait, là, quand tu as cette bascule-là dans le sport de haut niveau, c'est vrai d'ailleurs pour tout, hein, pour le foot, pour le tennis, tu peux avoir envie, mais tu peux aussi être très vite déçu ou en tout cas ne pas atteindre le niveau que tu veux.
Ouais.
Là, il faut vraiment avoir une passion parce que tu peux pas te lever tous les matins et faire ça tous les jours si t'es pas motivé par ça. Parce que
et en plus, donc ouais, c'est ça, c'est enfin, vraiment une évidence. C'était même pas un. Enfin, je me suis pas posé un soir est-ce que je veux faire ça ou pas. C'est
il ouais,
bah, y a ça,
toi,
c'est sûr que c'est sûr que c'est bien. Enfin, je veux dire, ça peut pas se rater. En plus, pour un Français de partir 4 ans, parce que c'était des cursus de 4 ans, partir 4 ans aux États-Unis, là-bas, c'est enfin il y a quand même pire. C'est une expérience de dingue. Que je travaille, que je finisse golfeur professionnel ou pas du tout, aucun rapport.
Ça aurait été une super expérience.
Dans 20 ans, je m'en souviendrai toute ma vie de ces 4 années. Passer aux États-Unis en train de vivre une vie universitaire là-bas en plus d'un côté sportif. Donc,
comment ça s'est produit? Parce que c'est intéressant aussi pour ceux qui écoutent et qui voudraient. Parce qu'il y a des plus jeunes dans le club dont tu es forcément un modèle. Enfin, bah, c'est un peu vrai. T'as un niveau qui est quand même. Qui inspire le respect. Comment ça s'est passé? Vous êtes passé par un agent? Vous êtes. T'avais identifié des facs
Alors en fait. J'avais fait un appel avec un coach universitaire là-bas qui est français, que j'avais eu en contact par, je sais plus, quelqu'un de la Ligue, je crois, ou de la Fédération française. Et il m'a expliqué en fait tout le fonctionnement pour se faire recruter. Et qui s'appelle d'ailleurs Adrien Mort, qui a été coach à TCU, c'est dans le Texas, c'est une des plus grosses universités américaines du pays. Enfin, université américaine, pardon. Mmh. Et donc il m'a expliqué tout le process, il m'a du coup parlé qu'il y avait des agences qui pouvaient t'aider à te montrer en valeur quoi, auprès de l'université, parce qu'il y a le championnat principal s'appelle NCAA, et il y a 3 divisions à l'intérieur, et par exemple dans la première division je crois qu'il y a 300 universités, deuxième tu dois avoir 250, et la troisième peut-être un poids de moins.
Ah oui, c'est énorme.
Et y a encore un autre championnat qui a un niveau un peu en dessous, qui s'appelle NIA. Et là-dedans, tu as aussi 100 ou 200 universités. Donc en fait, tu as quasiment 1000-1500 universités qui proposent un programme de golf. Et donc de choisir laquelle.
Puis en plus, il faut se faire repérer, parce qu'au-delà de ça, il faut avoir le niveau. Est-ce qu'il y a un critère de niveau
C'est sûr, il y a un niveau, mais sauf que ce qui est vraiment cool, entre guillemets, dans ce principe-là, c'est qu'il y en a tellement qu'il y a tous les niveaux. Il faut quand même avoir un certain niveau, mais c'est pas réservé au top mondial.
T'es pas obligé d'être premier français dans les 10 premiers français.
Ouais, c'est ça. Je pense que les personnes. Je pense que tu peux rentrer là-bas en étant top 100 français de ta catégorie, quoi. Top 100 des moins de 18 ans. Je pense que t'as aucun problème à trouver quelque chose.
C'est le niveau de l'université.
Voilà. Après, il faut accepter de partir dans une université. Qui est moins bonne, entre guillemets, parce que qui dit moins bon au golf, c'est moins bon à l'école, parce que tout est relié là-bas. Infrastructure moins bonne.
Ah oui, donc c'est un vrai choix.
Il faut accepter quand même de partir là-dedans, mais si vraiment on a envie de faire ça, c'est vraiment ouvert, pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes.
Et il y a un système de bourse, j'imagine, parce que on parle tout le temps des études aux États-Unis, mais enfin.
Ouais, c'est ça. Là-bas, ça coûte super cher. Pas forcément parce qu'on est étranger, mais eux, c'est dans leur culture que ça va entre 20-25 000 l'année jusqu'à les plus grosses, je pense que c'est 80 000 l'année. Donc,
c'est des vrais budgets quand même.
Donc, c'est sur 4 ans, tu peux en avoir quasiment pour 300 000 euros, c'est pas rien. Et donc, dans ces systèmes-là, si tu signes pour l'équipe de golf, ils te payent tout ou une partie de tes études en pourcentage. Et donc tout est hyper réglementé, c'est très très compliqué parce que ils doivent mettre maintenant que je suis un peu plus à l'intérieur, en fait ils doivent mettre le même budget pour les équipes femmes que pour les équipes hommes. Donc si t'es une femme, c'est plus simple d'y aller parce qu'il y a plus de budget chez les hommes.
Budget, ouais.
parce qu'il y a beaucoup de choix. Mmh. Et chez les femmes, il y a moins de demandes,
oui.
Mais ils ont les mêmes budgets. Donc, entre guillemets, c'est plus simple d'y aller là-bas.
Mmh.
Et donc, c'est tout un tas d'arrêts comme ça où, pareil, ils ne doivent pas dépasser sur toute l'équipe 450% de bourse. Ils doivent, s'arranger entre tous les joueurs pour ne pas dépasser ces
450%.
En fait, c'est très, très, très compliqué. Et donc, il faut réussir à trouver une université qui veut de toi pour ton niveau, mais oui. Qui veut te donner assez selon tes besoins.
Oui, il faut quand même que tu puisses derrière atteindre tes objectifs. Quoi. Mmh. Donc, toi, l'université que tu rejoins s'appelle comment ?
Moi, ça s'appelle Florida Gulf Coast University. Mmh. C'est dans le sud-ouest de la Floride, à Fort Myers. C'est à 2 heures de Miami. Et elle est en division 1.
Ah oui, parce que tu peux rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. C'est que tu peux aussi te retrouver à faire un programme aux États-Unis, mais avec une division qui est
ouais, c'est ça. Et après, il y a la possibilité de transférer au cours de tes études. Donc si par exemple...
Tu peux être recruté par une autre université ?
Ouais, en fait, y en a pas mal qui font ça, quand ils veulent vraiment aller au haut niveau, mais qu'ils n'ont pas le niveau avant de partir, mmh. Ils font 1-2 années dans une université moins bonne, et s'ils jouent très bien, ils peuvent réussir à se faire repérer par les plus grosses, et à se faire transférer là-bas, donc c'est...
Ah ouais,
donc en fait, il y a le choix pour tout.
Tu peux quand même y aller et après, tu peux suivre un autre parcours.
Ouais, ouais. Et même, tu peux transférer même jusqu'à 2 fois au cours de ton cursus. Donc, moi, j'ai un pote à moi qui a fait une année dans une division 3, je crois, ou 2. Après, il est passé dans une division 1 qui était, je crois, genre 150e sur 300.
Mmh.
Et après, il a retransféré là, qui est resté top 40, je crois, ou top 50 du pays. Donc, c'est une des meilleures, sachant que le top 40, 50, ça, c'est vraiment les meilleurs.
Et ça varie énormément. C'est là où on va retrouver après ceux qui vont rentrer sur les
mais
tours.
Mais c'est pas... je sais pas, je prends l'exemple du foot. Le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ils vont gagner chaque année ou ils vont faire deuxième. Ou alors ils vont faire deuxième dans le pire des cas. Là-bas, l'université qui gagne le championnat, l'année d'après, elle peut très bien finir 30-40e, enfin super loin de la première place.
Tu veux que tu commences parce que c'est quoi
c'est des joueurs qui restent. Enfin, on reste que 4 ans sur le circuit universitaire, donc il suffit d'avoir une génération de 2 ou 3 gros mecs sur la même année. Mmh. Et s'ils sont en dernière année et qu'ils jouent super bien, ils vont super bien. Enfin, l'université va super bien jouer et d'un coup va avoir un vide parce qu'ils vont partir l'année d'après.
C'est ce qui est passé quand Tiger Woods a quitté Stanford.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et lui, il a fait qu'un an et demi de circuit universitaire parce que il était tellement bon, entre guillemets, qu'il avait les possibilités d'être pro directement sur le circuit.
Ah oui, c'est ce qui explique finalement, il y a un temps très court, donc c'est difficile de construire des équipes.
C'est ça, ouais.
Mais ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet à chacun de jouer.
Mais il y a quand même un truc qui fait que les meilleurs joueurs, ils vont dans l'université où il y a le plus de budget.
Mmh.
Donc le top 40, va pas, top 50, va pas changer.
Oui, parce
mais
que
il peut changer d'ordre à l'intérieur, mais
les budgets sont toujours un peu affectés sur ces 50-là. Quoi.
Ouais, ouais, mais l'université qui est tout le temps en top 20, elle le sera toujours, et parce qu'il y a beaucoup d'argent et que tout le monde veut aller là-bas.
Et ton université fait partie des 50
hein? Elle est juste en dessous. On est souvent entre top 50 et top 70, quoi, on va dire, quelque chose comme ça.
C'est complètement
normal. Mais après, on est en pleine pente montante, on va dire. Chaque année elle s'améliore et je crois qu'il y a 5 ans on était top 150
donc il y a une vraie progression.
C'était assez neuf pour les États-Unis. Je crois que l'université elle a 40, 30 ou 40 ans alors que là-bas elles ont quasiment toutes plus de 100 ans donc les plus connues en tout cas. Donc,
ça veut dire que tu vas contribuer
j'espère qu'on va essayer de les faire monter au plus haut pendant mes 4 ans.
Est-ce que tu vas nous parler justement, dans le cadre de cette progression, c'est intéressant aussi, c'est de savoir quel est ton quotidien là-bas. Parce que donc, tu es intégré au mois d'août, donc ça fait 4 mois que tu es là-bas, 4-5 mois.
Un semestre.
Un semestre. Donc, c'est quoi ton quotidien? Parce qu'on parle de golf, mais ça veut dire qu'il faut mixer quand même les études à minima. J'imagine que vous avez quand même un programme où tu vas ressortir diplômé quand même de cette université. Comment est-ce que tu. Bah, c'est quoi la journée de Sacha Ruiz d'un sportif de haut niveau aux États-Unis aujourd'hui?
Alors, déjà, avant de parler de mon emploi du temps, entre guillemets, c'est que là-bas, les études, c'est hyper important pour jouer sur le circuit universitaire. C'est-à-dire qu'on est surveillé par des athletic advisors qui vont regarder chaque semaine. On va avoir un rendez-vous avec eux chaque semaine pour voir si on a de bonnes notes, si on suit bien notre travail. Parce que si on ne travaille pas assez bien, on n'est pas éligible à jouer sur le circuit universitaire. Donc,
c'est d'abord le niveau. Ouais. Enfin, ils sont quand même très vigilants sur votre.
Ils font très gaffe à ça. C'est pas un sport-études où on fait des études un peu bidons, où on fait un peu ce qu'on veut. C'est très très réglementé. Ils font gaffe à ça.
Oui, d'ailleurs, en plus, il y a la bourse derrière, donc vous êtes.
Ouais, c'est ça.
Il y a un double investissement quand même.
Et donc après mon emploi du temps, on a. Moi, je vais parler pour ça peut changer à peu près chaque semestre, mais je vais parler de mon premier semestre. On avait 3 séances de sport par semaine le matin avant les cours à 6h.
Et ça, c'est du physique ou c'est du golf?
Non, du physique. On allait en salle de sport dans l'université qui est, je sais pas, 50 mètres à côté de notre appartement.
Est-ce que vous êtes plusieurs?
On est 9 dans l'équipe. Et on est. Donc, t'as 2 colocs de 4 et il y a un dernier mec qui est pas tout seul, dans une autre coloc, pas de personne de l'équipe de golf.
Donc, vous êtes 9 dans cette université et c'est à peu près le volume des joueurs qu'il y a par université.
C'est à peu près, c'est entre. Je crois que ça commence à 8 jusqu'à 11, 12 max.
D'accord, donc vous êtes 9 le matin, vous vivez ensemble et donc vos 3 heures de. Enfin, vous êtes obligé d'aller.
Ouais, c'est ça. Et. Donc, on commence. Donc, 3 fois par semaine, on fait ça, sport. Et après, on va aller en cours. Moi, j'avais 10 heures de cours par semaine. Donc, en gros, ça me faisait 2 heures de cours par jour à peu près. J'avais cours le matin 3 fois par semaine. Et j'avais le mardi et le jeudi, j'avais juste une heure et demie à 16h30.
Ah, il doit vous demander de travailler à côté parce que 10 heures par semaine. Ah oui, c'est ça la contrainte. Parce que ceux qui nous écoutent vont dire, finalement, c'est assez cool 10 heures par semaine.
Et par contre... alors 10 heures par semaine ça paraît du coup vraiment rien à ce qu'on connaît en France, mais que moi j'ai le même nombre d'heures de cours qu'un étudiant lambda là-bas en fait. D'accord. j'ai pas d'horaire aménagé. C'est juste que le système scolaire là-bas c'est le prof il vient, il te fait le cours, il te donne le cours sur internet et après tu dois bosser de ton côté, tu dois de temps en temps répondre à des quiz sur ton ordi, sur ta page d'étudiant. Ou alors tu as des examens en personne. Mais le prof, il ne va pas être là comme... j'imagine comme à la fac en études supérieures en France. Mais en tout cas, c'est totalement différent du lycée que moi, j'ai fait en France.
Oui, tu es complètement autonomisé. Livré à toi, non, tu es encadré, mais tu dois travailler à côté.
Ça va être ça la différence avec les étudiants lambda, c'est qu'eux, ils sont livrés un peu à eux-mêmes et nous, on est encadrés par le staff athlétique... de l'université parce que
ce que tu disais tout à l'heure, ils te surveillent.
Et que eux, ça leur rapporte de l'argent si on a des bonnes notes à l'école. Il y a un classement, en fait, il y a un classement de golf, mais il y a aussi un classement des programmes de niveau, golf à l'école.
D'accord.
Donc c'est hyper important qu'on soit le meilleur possible à l'école.
Donc ils sont vigilants à la fois, donc tu parlais du physique, ça c'est pour la préparation physique, et à la fois sur l'intellect, tu es un spécialiste dans un corps sain, il faut les deux. Donc là, tu fais 3 heures et après, le reste, c'est beaucoup de... C'est des parcours de golf, c'est de la technique, c'est...
Alors,
parce qu'on peut se demander à un moment donné comment est-ce qu'on devient meilleur. C'est-à-dire que moi, je te connais bien, je sais bien comment tu joues et c'est très difficile d'arriver à faire la différence entre un bon joueur et un sportif de haut niveau qui peut potentiellement avoir accès aux plus grandes compétitions mondiales.
Ouais, après, honnêtement, je pense que de l'extérieur, quand on est un joueur... sans être dénigrant, mais lambda, si tu connais bien, etc. Mais je pense que tout joueur de haut niveau, quand on voit quelqu'un jouer, même s'il joue très bien, on voit tout de suite qu'est-ce qu'il peut améliorer. Et je pense que le numéro un mondial du golf, lui, sait exactement qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir meilleur. Mmh. Et je pense que c'est un peu ça, une des clés, je pense, pour être le meilleur dans ce sport. C'est...
une introspection, être capable de s'analyser. Quand
même. Ouais, c'est ça. Donc, moi, même si je joue à peu près correctement, je suis à des années-lumière de jouer comme j'aimerais jouer.
Mais donc, dans ta tête, tu as une vision, tu t'échanges, parce qu'on a, tous des physiques différents. C'est là où, il y a certains sports comme le rugby, on imagine bien que les arrières ne seront pas les mecs dehors, mais au golf, on voit bien qu'il y a des physiques différentes, donc il faut s'approprier son corps aussi, c'est important, pour arriver à progresser.
Ouais, bah déjà, pareil, une sorte de, pas de don, mais oui, je pense, de don des très bons joueurs, c'est de très bien connaître leur corps et bien l'imaginer dans l'espace pour comprendre les mécaniques de golf. Je pense que ils vont gagner beaucoup, les meilleurs joueurs du monde vont gagner beaucoup de temps à comprendre leur swing. Ils vont le comprendre naturellement, alors que le joueur peut-être un poil moins bon, lui on va devoir lui expliquer plusieurs fois pour qu'il comprenne ce qu'il doit faire, alors que eux,
ils ont
une maîtrise de leur corps et une compréhension de la mécanique du swing qui est hors norme, et donc ils savent exactement quoi faire pour s'améliorer. Et je pense que et ça se travaille, c'est pas inné.
Oui, parce
ou pas.
Que de l'extérieur, on peut se dire. D'ailleurs, on peut regarder. Tout le monde a des swings différents.
Mais il y a pas un swing qui se ressemble au golf.
Ouais, donc il y a vraiment cette connaissance, et c'est là où c'est un sport qui est aussi intéressant, c'est cette mécanique d'arriver à trouver des petits déclics qui font qu'à un moment donné, tu vas changer quelque chose dans ton.
Mais soit moi je trouve qu'au golf, on progresse beaucoup par palier. C'est pas. C'est pas continu, on passe souvent des paliers où on va avoir le même niveau pendant 3-4 mois.
Et on a l'impression qu'on c'est rassurant, ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer.
Ouais.
Donc je peux me rassurer. Quoi.
Oui, oui. Bon, après, quand c'est un palier descendant, c'est pas bien. Mais.
Ouais, il y a une progression, donc il faut. Tu peux admettre, il faut admettre aussi de temps en temps que ça stagne un peu. Quoi.
Et donc, pendant deux mois, on a l'impression qu'on va super. Qu'on a fait d'énormes progrès parce qu'on joue d'un coup super bien. Et puis après, on commence peu à peu à s'habituer à ce niveau-là. Donc ça commence plus à être un niveau très bien, mais à être notre niveau normal. Mmh. Et donc là, on va peut-être restagner pendant deux mois, trois mois, certaines personnes un an, deux ans, trois ans. Et après, on va falloir passer un autre palier en trouvant peut-être une autre clé technique, une pensée mentale.
Et là, vous êtes accompagné justement pour ça ? C'est-à-dire que là, à l'université, vous avez aussi des coachs mentaux, chacun doit se débrouiller de son côté.
Ouais, à l'université, le principe de l'université américaine, c'est un peu.
Struggle for life.
On te lâche là-bas, démerde-toi, quoi. Mmh. Ils partent du principe qu'on est assez mature pour pouvoir s'entraîner seul et qu'on a assez de staff autour de nous dans notre pays ou ville d'origine.
Pour les solliciter, pour vous accompagner.
Pour progresser. Et que nous, en fait, on a un coach dans l'équipe, mais ce n'est pas un coach comme on l'entend en France. C'est un sélectionneur, un facilitateur de vie, et un organisateur de...
Oui, il n'est pas là pour vous coacher au sens propre.
Donc, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Et nous, donc on a des infrastructures qui sont top là-bas, parce qu'en Floride, c'est vraiment l'état du golf dans les États-Unis. Je crois que c'est l'état où il y a le plus de parcours où il y a le plus de parties enregistrées chaque année. Donc nous, on est hyper bien servis. On a une super météo qui est super importante pour un sport qui joue en extérieur, comme le golf.
Oui, ça c'est plutôt agréable.
Ouais, ça c'est vrai que ça change la vie. Moi, j'étais tout à l'heure au practice dans 60 km/h de vent. C'était pas pareil qu'avec 25 degrés et sans vent.
Donc chacun vous entraînez, et il y a une question, tu disais que c'est une compétition, c'est quoi les relations ? Parce que autant, alors on peut imaginer que les sports d'équipe, chacun a plus ou moins sa place, quoi qu'il faut tout de même la gagner. Comment ça se passe, vous, dans votre système ? Parce qu'il faut gagner ta place, j'imagine.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on est 9, mais à chaque tournoi, on fait entre 10 et 12 tournois par an. Mais donc à chaque tournoi, il y a 5 personnes de l'équipe qui vont jouer, que le coach va choisir. Et donc, pour ça, faut prouver que tu es dans les 5 meilleurs des 9. Donc, nous, on fait, on fait des qualifications, en gros, entre nous. Ça, c'est pareil, c'est le coach qui est là pour organiser, qui choisit le parcours où on va jouer, qui réserve les départs, il nous dit à telle heure vous devez être là, prêt à jouer, etc. Et les cinq meilleurs sont sélectionnés. Et les cinq meilleurs aussi.
Mais ça veut dire que c'est difficile de créer. Comment tu fais pour rester ami? Il peut y avoir aussi des dérives dans tout ça.
C'est sûr. Je pense que doit y en avoir forcément dans certaines universités ou pour. À cause de certaines personnes. Mais moi, personnellement, de mon expérience, il y a une énorme compétition entre tout le monde, mais qui est super saine.
Ouais.
Et tout le monde veut que... En fait, tout le monde veut battre tout le monde, mais on veut le battre pas parce que l'autre joue mal, mais parce qu'on joue bien. Très bien et que l'autre a juste bien joué, mais pas très bien joué. En fait, on veut... Parce que nous, c'est dans notre intérêt que les autres jouent bien, parce que ça montrera aussi le niveau de l'université. Et si le niveau de l'université monte... nous personnellement on va jouer des meilleurs tournois
Donc il y a quand même cet esprit, tu disais que c'est vrai que c'est un sport individuel, mais là dans ton cadre précis et dans le cadre universitaire il y a quand même un esprit d'équipe.
Ouais, carrément.
Et donc tu dois travailler pour gagner ta place et c'est in fine le coach qui décide qui va jouer.
Ouais, c'est ça.
Et là vous avez combien de tournois là par an? Vous jouez combien de tournois?
On en a 11 je crois.
Ah, 11 fois 3 jours.
11. Alors là-bas, c'est un peu différent le format. Ils font tout pour que ce soit fait le plus vite possible. C'est vraiment l'américaine. Et donc, on fait. C'est sur. En fait, quand je dis c'est sur 3 jours, c'est 3 fois 18 trous. Et donc, eux là-bas, ils veulent garder ce format-là. Mais on fait ça sur 2 jours. C'est-à-dire qu'on fait 36 trous le premier jour. Et le lendemain, 18 trous pour pouvoir retourner le plus vite possible en salle de classe, entre guillemets, et rater le moins de journées possible de cours. Et donc,
c'est quand même très intense. Quand
même. Ouais, 36 trous, pour ceux qui jouent au golf, ils savent que c'est très, très endurant, ça demande beaucoup d'énergie.
Plus la pression du... T'étais pas là en amateur. T'étais pas là pour t'amuser, vous êtes là quand même pour gagner, c'est de la compétition.
C'est hyper, hyper épuisant.
Oui, donc ça nécessite, c'est pour ça qu'on parlait de physique, il faut physiquement être bien, mentalement être bien et ne pas craquer. Écoute, on va conclure notre émission, mais je voulais savoir, toi, on va parler d'avenir, là tu es à l'université, est-ce que tu te dis, parce que tu disais qu'au départ tu l'as fait, non mais de toute façon on le fait par passion, est-ce que là, toi demain, si l'opportunité se présente, est-ce que tu penses que toi tu veux accéder à un niveau pro, alors il y a l'European Tour, on voit bien qu'en France c'est moins facile de faire ce que tu fais, parce qu'on n'a pas les infrastructures, mais est-ce que toi tu te vois, tu te vois évoluer dans le golf pro, est-ce que tu te dis, je verrai bien selon, ou ça reste quelque chose de j'allais dire entre guillemets d'accessoire, sachant que le golf sera définitivement jamais accessoire pour toi.
Déjà pour commencer, c'est que moi je suis parti là-bas pas parce qu'on n'a pas les infrastructures en France, parce que franchement il y a plein d'endroits en France, c'est vraiment super bien de s'entraîner, je pense que c'est important à souligner ça, que il y a plein d'exemples en France de très très bons joueurs professionnels qui sont les meilleurs mondiaux, qui n'ont pas fait ce chemin-là parce qu'il y a de superbes infrastructures en France, mais il n'y a pas de... c'est un peu soit
tu fais que du golf,
soit les études en fait.
Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, je me suis mal exprimé, mais il n'y a pas d'organisation qui allie études et on a pas vraiment. D'ailleurs, c'est vrai pour beaucoup de sports.
En tout cas en études supérieures. Ouais. Ça, il y a des pôles France, mais je crois qu'ils arrêtent à la terminale les études, donc voilà. Oui, et pour moi, personnellement, pour ce que je veux faire plus tard. J'essaie quand même de rester le plus possible dans le présent et plus me donner à fond tous les jours pour réaliser mes rêves, mais
pour moi
c'est des rêves, c'est pas vraiment des objectifs, donc si je les réalise pas c'est pas grave, ça va pas me, enfin si, ça va me changer ma vie forcément, parce que
tu veux pas te mettre, c'est ce côté psychologique, tu veux pas te mettre ça comme une contrainte, tu te dis je profite et je me donne à 100%.
Pareil, je déteste perdre et donc je déteste l'échec, je pense que j'ai un peu peur personnellement de l'échec et donc je veux pas mettre en tête que je veux faire ça absolument parce que je sais que c'est très dur et donc si j'y arrive pas, ça veut dire que j'aurais fait un échec.
Donc c'est un combat, tu préfères intégrer le combat au quotidien en te disant je vais mettre une pierre à chaque fois et on verra bien.
J'essaye de me donner à fond et de me donner le plus de chances possible de faire mes 4 ans comme ça, d'université. Et après ces 4 ans, je verrai où j'en suis. Mais,
Donc là, tu es parti pour 4 ans de toute façon. Il y a 4 ans de programme.
Ouais, je vais être diplômé en mai 28.
D'accord. Et à partir de là, tu seras encore très jeune. Tu auras le temps de voir ce que tu fais. Enfin, a priori, ça tournera a priori autour du golf.
Ouais, ce serait sympa. Mais en fait, je sais pas trop si je peux pas faire joueur
pro,
professionnel. Ouais. Je sais pas trop si j'aimerais travailler dans le golf. Enfin, parfois, je me dis que ce serait trop bien. Enfin, que ça me ferait chier de plus être dedans. Mmh. Et parfois, je me dis que j'aime trop ça et que...
Ah, une frustration,
si
peut-être.
Ouais, ça si je suis trop proche de ça, enfin, du... Si, je sais pas, je bosse auprès d'une marque de golf et que je côtoie, je sais pas, les joueurs pros qu'on sponsorise...
T'auras le sentiment de te dire, ça aurait pu être moi.
Ça aurait dû être moi. Et donc, je sais pas trop si j'apprécierais. Donc, c'est pour ça que j'ai le temps.
De toute façon, t'as le temps de voir venir. Là déjà, carpe diem, profite de ce que tu fais.
Ouais.
Bah, écoute, on va s'arrêter là-dessus. C'était passionnant. Merci d'avoir consacré un peu de temps à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés, on voit que l'école de golf est en train de progresser. Donc, un grand merci, Sacha, pour cet échange. Et puis, on se retrouve bientôt sur le parcours. Et je n'espère pas un jour pouvoir te battre.
Ouais, et merci à toi de m'avoir reçu.
À bientôt sur Radio Girafe. Merci, Sacha. Et on se retrouve bientôt sur les ondes. Ciao.